Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
10h36 minutes, les tours Bardi dans le secteur de Henri Bourassa, coin la capitale. C'était en feu tantôt. Où est-ce qu'on en est rendu dans cet incendie-là?
On est toujours en intervention. Troisième alarme un peu plus tôt ce matin, 11h50, ça a sonné. En fait, on a dû évacuer toutes les personnes qui étaient prises dans cette tour-là, entre autres. Plus de 65 pompiers sur place. Quand je vous dis qu'on est toujours en intervention, c'est qu'il y a peut-être 20 minutes, là, on a réussi à évacuer des gens qui étaient à mobilité réduite au-dessus du 6e et 7e étage qui sont en feu. Donc, fumeux qui monte, quand même incommodant, stressant aussi pour beaucoup de locataires. Les familles qui essaient de prendre des nouvelles, beaucoup de gens sur les balcons pour respirer un peu d'air frais puis signaler qu'ils sont présents puis qu'il va falloir intervention. Finalement, on a pris les escaliers, ça a été possible, mais ça a pris plus de temps. Il y a des gens en canne, il y avait des gens justement qui avaient besoin d'une assistance supplémentaire des pompiers. Il y aura d'autres détails à venir, mais on est toujours en cours d'intervention.
Il se passe quoi que ce soit sur la route, vous voyez les choses, vous êtes nos yeux, nos oreilles, transmettez-nous l'information au 418-971-1021. 88-971-1021. Actuellement, sur Québec, c'est 18. Température adéquate pour les gens qui ne veulent pas avoir chaud, pas avoir froid. Ensoleillé tout au long de la journée, maximum de 18. Pour ce qui est de ce soir, quelques nuages qui s'amènent, mais pas de probabilité d'averse de prévu. Minimum de 10 degrés. Mercredi, des nuages avec un maximum de 16. En soirée, là, c'est de la pluie intermittente, minimum de 13. Jeudi, de la pluie toute la journée, maximum de 14 degrés. Vendredi, des nuages, maximum de 21. Et pour ce qui est du week-end, ça s'annonce ensoleillé. Si je me fie au radar d'environnement Canada. Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, salut!
Bonjour à vous deux.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je regardais sur le site de libremedia.com, il y a beaucoup de stocks, du stock qu'on n'entend pas nécessairement parler dans les médias, comme, je ne sais pas, plus généraliste, comme Journal de Québec, Journal La Presse, Le Soleil. Vous parlez d'un trafic d'enfants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. On parle des États-Unis qui ont perdu... Qui ont perdu trace de 300 000 enfants qui seraient disparus en sol américain. C'est assez inquiétant, ça.
Oui, vraiment. C'est mon caméraman, en fait, c'est notre vidéojournaliste à Libre Média, Francis Denis, qui est intrépide, qui est aventurier, qui s'est rendu, imaginez-vous, dans le désert, dans une portion du désert de Californie, en Jeep, en VUS, pour aller effectivement filmer certaines brèches, en fait, certaines brèches dans le mur. On imagine toujours que le mur entre les États-Unis et le Mexique, c'est une espèce de mastodonte là, étanche, en acier, etc., qui vraiment, c'est ça, ferme de manière hermétique la frontière, mais c'est pas du tout ça. Donc, le tracé, il y a plein de brèches. Et Francis Denis a interviewé un certain Corey Gautreau, qui, lui, selon ses estimations à lui gère un organisme qui s'intéresse à la prévention justement du trafic humain à la frontière. Et lui, selon ses estimations, il y aurait 300 000 effectivement enfants qui auraient disparu en sol américain après avoir franchi la frontière. Donc, le trafic humain est évidemment l'un des enjeux les plus préoccupants actuellement en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on aurait aimé que Donald Trump nous parle plus de trafic humain que des chats et chiens qui seraient mangés par des migrants. Vous vous rappelez évidemment de cette sortie-là de Trump au débat. C'était très anecdotique par rapport à ce qui se passe à la frontière. Donc, on s'est rendu, c'est ça, pour constater, c'est ça, il faut voir, hein, c'est les images, dedans, les images valent mille mots. Une image vaut mille mots. Donc, Francis Denis, c'est ça qui a fait ce reportage-là pour... rendre compte d'un autre témoignage sur la situation. Certains gens pensent que c'est une genre de théorie complotiste, là, le trafic humain à la frontière, mais vraiment très, très loin de là. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la polémique sur le film Sound of Freedom, où on disait que la droite américaine avait inventé un peu ce genre de thématique-là pour peut-être associer une certaine gauche à une certaine pédophilie. Disons que c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, il faut s'intéresser à ça de près parce que, d'abord, c'est complètement inacceptable et immoral. Et deuxièmement, parce que c'est quand même un des pays qui sont juste en dessous du nôtre, du Canada.
Donc, c'est 2,5 millions de migrants qui seraient parvenus à la frontière américaine depuis le Mexique. Là-dedans, il y avait 300 000 enfants. On nous dit que San Diego, ça serait un des épicentres du trafic d'enfants dans le monde. À quoi serviraient ces enfants-là? Est-ce que c'est pour adoption? C'est pourquoi?
Bien, évidemment, trafic sexuel, ce serait quand même disons, le marché principal, malheureusement, il faut même parler en termes de marché, hein. Donc, c'est un marché, c'est un commerce, en fait, celui des enfants à louer, hein, à des fins sexuelles, ce n'est pas des farces, là, c'est ça. Puis, on sait aussi que l'exploitation sexuelle des enfants en ligne bat tous les records, hein, depuis le confinement. Ça, c'est des criminologues comme Maria Mourani pourraient vous le confirmer. Donc, malheureusement, depuis la pandémie, depuis que les gens sont plus encore sur Internet, depuis que les enfants sont de plus en plus sur Internet, il y a plus d'exploitation sexuelle en ligne et par le fait même, plus d'exploitation sexuelle physiquement, c'est-à-dire concrètement. Donc, souvent, des enfants qui se retrouvent sur ces grandes plateformes-là, qui sont exploités sur les grandes plateformes, certains d'entre eux sont captifs entre les mains de groupes criminels. Que ce soit au Mexique, en tout cas dans les pays pauvres, certainement. Mais l'adoption, j'ai déjà entendu aussi, effectivement, c'est pas une mauvaise intuition que tu as, là. On sait qu'il y a un trafic aussi d'enfants, là, pour les gens qui veulent évidemment adopter des enfants plus rapidement. On sait que c'est compliqué, l'adoption, là, sur le plan administratif, etc. Mais je pense que malheureusement,
Mais là,
c'est
si
ça.
tu acceptes un genre de trafic d'enfants pour être parent, tu ne mérites pas d'être parent. Là. Moi, j'enquêterai encore plus là-dessus parce que je trouve ça absurde de constater si jamais c'est le cas, ce genre de choses-là. Là. Je veux dire, quand tu es prêt à accepter que cet enfant-là arrive avec des traumatismes de trafic d'enfants, d'enlever un enfant à ses parents pour peut-être adopter, j'embarque moins dans le bateau.
Ben effectivement, moi je pense aussi que tu ne mérites pas d'être parent là, quand tu es prêt à utiliser ce genre de procédé. Mais le trafic sexuel m'apparaît quand même bien pire malgré tout, là. Je donne des statistiques sur le Mexique. On a travaillé sur la question. C'est pas la première fois qu'on travaille sur cette question-là. En juillet 2023, j'avais fait un article sur la disparition d'enfants au Mexique. Et c'est 14 enfants qui disparaissent par jour au Mexique. Donc, ça, c'est le pays d'en bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand Cory Gautreau, qu'on a interviewé, nous dit que, selon ses estimations à lui, puisqu'il est quand même un spécialiste du sujet, il dit qu'il y a 300 000 enfants disséminés, disparus en sol américain, c'est possible, là. Il y a 10 femmes aussi qui disparaissent chaque jour au Mexique. Je sais que les gens aiment ça, aller prendre leurs vacances là-bas. Moi, je suis un grand amoureux du Mexique, mais c'est sûr qu'il y a des réalités là, dont il faut tenir compte. Donc, écoutez, c'est vraiment une réalité tragique qui est clairement sous-estimée et pas suffisamment abordée dans nos médias, celle du trafic humain. Il y a du trafic d'organes aussi, ça c'est vrai, ça je me suis fait confirmer plusieurs fois. Mais c'est rien de. C'est-à-dire, quand au Mexique et qu'on s'y intéresse, j'ai fait plusieurs fois, je travaille avec ces migrants, on les voit, ils sont très vulnérables. Hein, parce que souvent, ce sont des migrants qui vont être kidnappés par des cartels, finalement, pour être livrés à d'autres groupes qui, eux, vont les mettre en prostitution. Et on les voit, ils sont très vulnérables sur les routes. Forcément, souvent, les enfants, les parents, des fois, vont abandonner leurs enfants contre leur gré parce que, bon, où il va y avoir une situation où la police va tenter de disperser un groupe et là, un parent va perdre un de ses enfants dans une espèce de descente de police ou, bon, une sorte de situation comme ça, là, évidemment, tout à fait rocambolesque. Donc, on les voit, évidemment, c'est des gens qui sont très vulnérables et les passeurs, les coyotes, comme on les appelle, sont des individus qui n'hésitent pas à exploiter la misère humaine, finalement, à des fins tout à fait dégueulasses.
La frontière que tu nous parles, Jérôme Blanchet-Gravel, bon, tu nous disais que c'était en bas de San Diego, donc là, c'est une frontière où j'ai passé, là, autant américain que mexicaine. C'est Tijuana qui est là. Est-ce que c'est plus à l'est de Tijuana ou plus à l'ouest de Tijuana où justement c'est un peu plus facile de passer?
Je ne sais pas, ça, il faudrait que tu poses la question à Francis Denis. Ce n'est pas la seule frontière, là, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est des milliers de kilomètres. Mais on sait que les points chauds, c'est Tijuana, puis Juarez, hein, la ciudad de Juarez, qui, je pense, elle, bon, c'est côté du Texas. Donc, je pense que c'est les deux principaux, là, les points les plus chauds. Puis en passant, ça aussi, quand on vit au Mexique, on l'apprend vite, mais on connaît tout le temps quelqu'un au Mexique qui a passé la frontière illégalement à pied, hein, aussi. Ça, c'est très, très banal. En fait, c'est très commun. Il y a toujours un cousin qui est allé travailler aux États-Unis, qui est allé passer. la frontière à pied, un parent, un oncle. C'est même devenu une sorte de sujet un peu comique là, dans les familles. C'est quand même... l'immigration irrégulière, ou en tout cas illégale, est un phénomène extrêmement courant. Donc, ça explique quand même aussi l'insécurité culturelle des Américains là, qui vont choisir Donald Trump pour ces raisons-là. Parce que c'est sûr que, écoutez, là, tu viens de le dire, 2,5 millions de migrants sont arrivés à la frontière américaine en 2023. Ça veut dire, c'est comme si 30 % de la population du Québec se rendait à une frontière là, en un an. C'est fou raide. Là. C'est des niveaux de... C'est un tsunami migratoire jamais vu. Ça bat tous les records.
Il y a beaucoup de choses dans notre angle mort à l'international. On commence un peu plus à ramener justement cette actualité-là au jour le jour. Je trouve ça intéressant parce que c'est peut-être à cause de la fraction mondiale qu'on connaît en ce moment, là, puis la réorganisation. Mais le crime organisé, on en parle beaucoup ici à Québec. Aujourd'hui, dans la presse, il y avait un dossier complet, vraiment intéressant pour ceux que ça intéresse justement, sur le Mexique, comme quoi c'est une terre d'accueil des fugitifs d'ici. On y va souvent vers le sud, vers le nord. Là, allons-y, le nord vers le sud, puis on parle de policiers de la GRC, de beaucoup de crimes organisés qui migrent vers le sud, soit au Mexique. Il y a plusieurs individus d'intérêt qui sont même des fugitifs qui ont fui la police québécoise et qui continuent d'agir en tant que facilitateurs pour des importations de drogue, entre autres. Les policiers le soupçonnent, c'est le verbe qui est utilisé, mais on s'entend qu'ils constatent aussi une fois les deux pieds là-dedans. C'est un dossier complet qui a été fait, entre autres, des Hells Angels retrouvés là-bas parce qu'ils fuient la police d'ici. On dit que la présence des criminels québécois au Mexique, c'est pas une nouvelle, c'est rendu une constatation. Ils sont nombreux à s'installer là. Ils passent des mois, sinon, pour se faire oublier pendant un bout. Oui, on fuit la justice, on veut peut-être la chaleur et pas celle policière, mais on dit que c'est un rôle de facilitateur dans l'importation de cocaïne et de méthamphétamine très, très populaire au Québec, au Canada. Oui, oui. Et ça sert d'intermédiaire entre les cartels mexicains et les groupes criminels québécois. Ça, c'est très important aussi à mentionner. C'est un excellent texte qui a été fort épluché, là.
Oui, 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 c'est intéressant. Moi, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, il me semble, les criminels de chez nous qui vont au Mexique, en tout cas, ils sont pas peureux. Parce que, disons que quand vous commencez à avoir des problèmes avec des cartels, la drogue, c'est vrai qu'on a commencé à faire de la torture à Québec, là, au Québec, avec certains groupes comme le PIC, hein, c'est ça, qui son organisation pratiquait la torture. Mais disons qu'au Mexique, c'est un autre niveau, là, c'est-à-dire... des terrains en banlieue où on a retrouvé chez le gars 60 personnes enterrées dans son terrain. C'est comme si quelqu'un à Neuville avait 60 personnes enterrées sur son terrain. On a vu ça souvent, là. Des décapitations, tout ça, puis disons des techniques assez corsées, là, faire disparaître quelqu'un dans un bain d'acide, etc. Donc, c'est disons des professionnels de la barbarie. Donc, disons, les criminels québécois qui vont là-bas se frotter au cartel, disons, ça ne doit pas être les plus peureux de la gang. Mais c'est sûr, tout ça est poreux. C'est le même continent. Comme tu disais, on a beaucoup d'angles morts. C'est comme si on oubliait au Canada qu'on est intégré à cette économie-là, là, criminelle ou informelle ou parallèle. Donc, je veux dire, on a un traité de libre-échange aussi avec le Mexique. C'est intégré. Et on sait que les cartels mexicains ont commencé aussi à investir au Canada. Puis, comme le Mexique est devenu la route, en fait, de la cocaïne, ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, la Colombie reste le principal producteur de cocaïne, mais la route par laquelle la cocaïne est acheminée, c'est vraiment le Mexique. Avant, ça passait par la mer, les Caraïbes, mais les Américains ont bloqué tous les accès, en fait, apparemment, ce que j'ai compris. Donc, la côte ne passe plus par la mer, elle passe vraiment par les terres, par le Mexique. Donc, j'imagine que, je suis dans l'hypothèse, mais que des groupes ici qui veulent être approvisionnés, ils vont directement s'entendre avec les gens là-bas pour avoir un accès à la poudre, dans le fond. Là.
Ouais. En même temps, un criminel québécois, pour rentrer aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué parce que les douanes américaines sont directement pluguées sur le système de la GRC. Donc, si toi, tu as, je sais pas moi, quelque chose de... T'as pété une balloune, les douanes américaines le savent en consultant ton dossier, en tapant ton nom. Ça pourrait pas être la même affaire. Je veux dire, on est en Amérique du Nord, là, on est en Amérique, le Mexique est là, les États-Unis sont là. On pourrait pas se protéger de cette façon-là?
C'est toujours des enjeux de souveraineté, avoir accès aux données. Le Mexique est dirigé par... Il était dirigé 6 ans par AMLO. Un type de gauche qui tient beaucoup à la souveraineté du Mexique. Donc, tu sais, c'était toujours les accusations d'ingérence. Donc, si on se mettait à développer ces systèmes-là, de partage des données. D'abord, est-ce que les Mexicains accepteraient, est-ce qu'ils y verraient une forme d'ingérence des États-Unis dans leurs affaires? C'est quand même fort possible. En même temps, le Mexique, c'est un pays de 100, 130 millions. Les États-Unis, c'est 230, mais il y a beaucoup d'autres
330.
pays. 330, oui, excuse-moi, oui, c'est 200, je me trompe avec le Brésil. Disons qu'il y a beaucoup de choses sous le radar des autorités au Mexique. Quand même, ben, je pense qu'on aurait un système de partage des données, ça pourrait sans doute nous aider. Mais c'est l'anarchie, dans le fond, en résumé. Il y a beaucoup de Mexicains qui n'ont jamais eu de compte de banque. Là, c'est, y a des... Moi, j'ai des oncles, des tantes au Mexique, ils n'ont jamais eu de compte de banque. Là. Vous comprenez, c'est de l'argent liquide. On ne fait confiance qu'à ça. Sinon, c'est d'autres mentalités. C'est très chaotique. Hein? Donc, c'est ça aussi qui doit faire peur aux Américains. C'est que malgré tout, il faut l'avouer, le Mexique reste un pays où le respect des lois reste quelque chose de relatif, là, mais ce n'est pas un pays qui est réglementé, structuré, avec une mentalité aussi cadrée qui permet de quadriller le territoire de la même façon. Il y a beaucoup de zones d'ombre, finalement. Fait que je pense que ça serait compliqué là, dans les marchés publics. C'est ça où on fait juste transiger en argent liquide, etc. Comment l'État peut finalement cadrer le territoire puis installer des dispositifs de surveillance dans une société aussi chaotique. Donc, c'est un grand défi.
Ici, on est un peu plus aseptisé. La monnaie est maintenant numérique. Ils peuvent suivre toujours cette monnaie-là. Où est-ce qu'elle va? Qui tu côtoies? Qui t'envoie de l'argent? On peut remonter 6 mois d'avance. Tandis qu'au Mexique, tout est avec de l'argent. T'as de l'argent?
Ah oui, ils y tiennent. Hein? Il y a eu des sondages, puis ils disaient que les Mexicains n'étaient pas prêts du tout à passer à l'argent, au paiement automatisé. Enfin, comment on appelle ça, nous autres, le taper là, avec la carte?
Ouais.
PayPass,
Interac.
C'est ça, débit, non, ils ne sont pas du tout là. Puis c'est ça, puis de toute façon, il y a trop de marchés publics. C'est pour ça aussi que ça va être plus compliqué dans des sociétés comme le Mexique d'instaurer ce qu'on appelle l'identité numérique, là, puis le traçage. Puis tu sais, ici, bon, on vient d'annoncer qu'il y aurait des radars dans toutes les régions. Donc, tu sais, c'est toute cette infrastructure numérique qu'on utilise, c'est ça, pour quand même contrôler, il faut le dire, la population, du moins... c'est récolter des données sur le comportement. C'est comme durant le confinement, le gouvernement fédéral a quand même tracé une quantité incroyable de téléphones cellulaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça quand même.
S'il y avait trop de téléphones cellulaires qui étaient réunis au même endroit, ben, le gouvernement le savait et pouvait envoyer la police.
C'est quand même, ça s'est passé au Canada. Là, donc, là, c'est tout ce qu'on appelle le modèle chinois, finalement. Donc, le modèle chinois, qui est celle d'une espèce de techno-totalitarisme, va être beaucoup plus dur à instaurer dans des sociétés comme le Mexique. Enfin, bref, on a dit beaucoup de choses, mais pour revenir au trafic d'enfants, c'est ça, aller voir le reportage, parce que c'est ça, c'est une réalité dont on ne parle vraiment pas assez au Canada. Puis, et probablement qu'il y a des ramifications. Il y a probablement des ramifications déjà au Canada.
On peut consulter le reportage sur Libre Média, Jérôme?
Libre-média.com ou directement sur notre chaîne YouTube, en fait. Ça va être encore plus simple. Donc, tapez Libre Média dans YouTube et ça va vous mener directement à notre chaîne.
On se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.
Un grand plaisir. Merci d'aborder ces sujets-là.
Bye-bye. Jérôme Blanchet-Gravel, avec qui on aime bien jaser. Chaque semaine, il est de Libre Média. Midi 55, on va faire une courte pause. Est-ce qu'on a plus de détails pour ce qui est des tours Bardier à Québec?
Bien, c'est sûr qu'il y a une quarantaine de minutes, on a dit que tout était sous contrôle, dans le sens les évacuations étaient sous contrôle, le feu n'avait pas d'aggravation probable. Oui, on est passé en quatrième alarme, mais c'est par les intérêts, justement, des pompiers de signaler que ça a été quand même une grosse intervention. Toujours au 1900 rue des Islets, il y a eu le feu au 6e et au 7e étage. Il y a eu propagation vers un logement. Il y a eu évacuation de tous les résidents, en fait. Deux interventions auprès des paramédics. On pense à tous ceux qui nous ont écrit aussi au 88-971-1021. Tout le monde connaît quelqu'un qui est dans cette tour-là. Puis il y a eu un genre de délai, mais pas parce que les pompiers ont mal travaillé, mais parce que, imagine Yannick, là, évacuer autant d'étages quand le feu est pris au milieu.
Ouais, puis
c'est pas facile. facile.
Il y a des gens qui sont en mobilité réduite. Tu as parlé du cas d'une des auditrices qui nous a envoyé un message tantôt. Elle était sur la galerie, elle essayait de respirer de l'air pur parce qu'à l'intérieur de son logement, il y avait de la boucane.
Puis elle essayait de signaler sa présence. Puis tu sais, ça vient stressant pour ces gens-là. Fait qu'il y a des membres des familles qui se sont aussi déplacés. Ça crée une certaine confusion dans la circulation du secteur.
Ouais.
C'est normal. On voulait juste que tout le monde soit en sécurité.
Ah, c'est inquiétant quand ça arrive. T'as-tu déjà été à l'Hôtel Dieu de Lévis?
Oui.
Moi, mes deux gars sont nés là, à l'Hôtel Dieu de Lévis. Puis à chaque fois, j'y pensais. C'était un hôpital, là. Mais s'il y a un incendie majeur, c'est sûr et certain qu'on ne réussira pas à sortir tout le monde. Là.
Il y a un plan d'intervention.
T'sais, il y a plusieurs étapes. Il y a un plan d'intervention, mais je veux dire...
Tu n'y crois pas, toi?
Non, sérieux. Pour y avoir été, là, les deux ascenseurs sont plus lentes que la plus lente des tortues du monde entier. Au nombre de personnes à mobilité réduite qu'il y a là-dedans, on ne réussirait pas à sortir tout le monde. Mais oui, il doit y avoir des murs coupe-feu et tout ça pour être sûr et certain d'être capable d'isoler certaines parties de l'hôpital.
C'est des gens dans des lits aussi. C'est des gens qui ont besoin plus qu'une canne pour
mais évacuation d'urgence, je te garantis que tu t'en sors pas en dedans de 6 heures.
C'est fun, Yannick. C'est vraiment optimiste et pas inquiétant.
Midi 57! On vient. Marceau, le midi.